Matthieu 23, notre texte aujourd'hui, ça va être... On va pas lire toutes la fin du chapitre 13, parce qu'on a vu la semaine passée les versets 1 à 12, mais là, on va lire... Parce que c'est des malheurs. On va lire les versets 13 à 22, parce que ça va être ça notre texte. Mais je vais revenir un petit peu sur les versets 12. Fait que, tant qu'à ça, on pourrait tiens, l'après-midi, vous ne devrez pas avoir un rôti dans le four. S'il y en avait un, ben, il sera bien cuit. Puis au pire, allez, ça sera une offrande à l'Éternel brûlée. Mais on va commencer au verset 13. Au verset 1, pardon. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites donc pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Donc on voit, après-midi, Jésus qui dénonce avec autorité. On va se concentrer dans les versets 13 à 22 pour la majeure partie, mais je veux vous donner une couple de remarques d'introduction. D'abord, je rappelle que faut toujours, quand on lit un évangile, il faut garder le flow, puis il faut voir que, surtout avec Matthieu, c'est bien structuré par rapport à des choses précises. Et on se rappelle que Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Comme étant le roi légitime d'Israël, celui qui vient offrir le royaume. Et donc, dans cette lignée, dans cette pensée, Matthieu, depuis un bon bout de temps là, dans l'évangile, on peut dire pendant tout l'évangile, mais spécialement vers la fin de la vie de Jésus, il met beaucoup l'emphase sur son autorité. Son autorité, rappelez quand il fait des miracles, parce que son autorité, quand il parle, il fait tout ça. C'est quelque chose qui revient depuis plusieurs chapitres. Et dans cette lignée-là, ben, Matthieu présente maintenant Jésus qui dénonce avec autorité. Il parle aux autorités de son peuple pour les dénoncer. Donc, il prend autorité sur ceux qui étaient dans le leadership de la nation. Et juste pour un peu revenir sur les versets 1 à 12, parce qu'il parle de ces leaders-là, et vraiment des choses qui dénoncent fortement. On a considéré brièvement dans ce message passé, mais je veux juste voir qu'il y a un contraste dans ce qu'il dit là entre la vraie et la fausse religion. Vous savez, vraie religion dans le sens de bonne religion, de Jacques 1, 22, là, la vraie religion sans tâche et pure devant Dieu. La fausse religion s'impose sur les hommes. Hein? Ici, on voit au verset 2... ça dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Littéralement, l'idée, c'est qu'ils se sont assis. Eux-mêmes se sont donné l'autorité, se revendiquaient de Moïse et de la loi. Et Mais il peut avoir une certaine légitimité de ça, d'avoir à enseigner la loi. Je n'ai parlé la semaine passée. Il allait au-delà de la loi, puis il allait plus loin que ce qui était prescrit. Et là, Jésus dénonce ça. Ces gens-là aussi imposaient ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Ils mettaient des fardeaux qu'eux-mêmes ne pouvaient pas remuer du doigt, verset 4. Donc, ils étaient hypocrites et indifférents envers les besoins des autres. Ils ne voyaient pas des personnes dans le besoin. Ils voyaient des personnes qui écrasaient comme ça. Aussi, cette fausse religion était hypocrite. La crainte de l'homme, il aimait être les premiers, il aimait être applaudi, salué, tout ça. Tout pour les apparences. Et il enseignait ça aussi aux autres. Pour eux autres, c'était ça d'être spirituel, de bien paraître de même. Mais le plus grand problème de cette fausse religion, c'est qu'elle usurpait trois choses essentielles de la vraie religion christocentrique. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle. Mais quand Jésus ici interdit trois façons d'être appelé, ok, ça réfère, il y a un parallèle, et je vais vous l'expliquer maintenant en introduction, avec le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous allez comprendre ici, si vous appelez quelqu'un avec un certain titre, c'est pas nécessairement un péché puis tout ça. T'sais, même appelé papa, t'sais, je veux dire. C'est... Mais ici, vous allez voir, c'est l'idée d'usurper, c'est de prendre la place, de prendre l'autorité. Quand il dit n'appeler personne rabbi ou maître, ces gens-là voulaient prendre l'autorité spirituelle qui ne revient qu'à Dieu seul. Et Jésus, pourquoi il y avait tant d'autorité? Parce qu'il était la vérité même incarnée. Quand il parlait, c'était la vérité. Il n'y avait pas besoin d'argumenter, c'était vrai. Tu n'argumentes pas avec la vérité, c'est la fin de l'argument. Quand tu dis le contraire, tu dis du mensonge. Donc, c'était le premier problème. Le deuxième, il dit n'appeler personne père. Encore là, c'est ça. Ça veut dire, oh, si tu appelles quelqu'un un papa, père. Non, l'idée ici, c'est d'usurper la vie que Dieu se donne. Le Père est celui qui est le Père de lumière qui nous a engendrés par la parole de vie. Aussi, on parle de Adam qui est le Père de l'humanité. Christ est le dernier Adam, second Adam. Dernier, second, je me rappelle, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est lui le Père de cette nouvelle génération qui a engendré. Donc, c'est. Encore là, il prenait, il usurpait cette place-là. Et directeur. Ça usurpait la direction spirituelle que Dieu seul donne. Dieu est la lumière que lui dans les ténèbres. Il est le chemin. C'est lui qui est le seul qui donne la direction. Et c'est, je l'ai déjà souligné dans d'autres messages, mais ces trois choses-là, le chemin, la vérité, la vie, c'est les trois besoins les plus fondamentaux de l'homme. On aimerait savoir où c'est qu'on s'en va, où c'est qu'on est. La vérité, on aimerait savoir c'est quoi qui est le vrai du faux. Puis la vie. T'sais, on est mort dans nos offenses ou nos péchés, on a besoin d'être rendu à la vie. Et donc, ces gens-là usurpaient avec une fausse religion ce que seul le vrai Dieu donne avec la vraie religion. Donc, c'est pour ça que Jésus dénonçait ça. C'était des usurpateurs. Est-ce que ce mot-là, ça se dit en anglais? Comprends-tu quand je dis usurpateur? OK, bon, c'est beau. Parce que des fois, je dis des mots. C'est un bon mot français, mais des fois, on prend des mots, puis... des fois... Alors, en anglais, usurpateur. c'est dur à dire, mieux le dire en français, dur à dire en anglais. Ben, je pourrais vous parler en anglais, mais c'est un peu plus dur pour moi. Je connais quelqu'un qui c'est comme ça qui parle en espagnol. Parler espagnol, que monsieur. Pour lui, c'était ça, parler en espagnol, tu parles avec un accent. Puis ma femme avait un roumain qui faisait ça. À l'aéroport en France, le gars parlait pas un mot français. Il parlait roumain avec un accent. La petite madame au comptoir ne comprenait rien. Lui, il allait parler roumain, mais essayait de faire un accent français. Fait que moi, je parle espagnol très bien, hein? Là, je suis vraiment loin du message. Je pense que ce serait un bon temps pour me repentir. Hein?
T'as perdu la direction.
Oui, j'ai perdu la direction.
Et le chemin.
Ah oui, j'ai vraiment perdu le chemin. Non, mais juste pour revenir à nos moutons. Non, c'était pas compliqué. Je disais que c'est trois choses. Dans le fond, c'est trois besoins légitimes, essentiels, fondamentaux, mais seul Dieu peut les combler. Le chemin, la vérité et la vie. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin, il faut que ça vienne de l'extérieur. C'est pas les hommes qui peuvent, on a besoin de la révélation de Dieu. Puis l'illumination par le Saint-Esprit de la parole, OK? Mais là, après ça nous amène au verset 13. Et là, Jésus commence sa dénonciation. avec, j'aimerais qu'on remarque, il y a un ton sévère, mais il y a aussi de la bonté et de la compassion. Parce que quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites » au verset 13, puis qu'il répète ça à plusieurs reprises, oui, on dirait « c'est dur », puis oui, mais en même temps, il y avait la bonté de les dénoncer pour qu'ils sortent, qu'ils amènent ces gens-là à la repentance. Mm-hmm. Fait qu'il, mais il y avait une sévérité en même temps qu'une bonté, la bonté de leur dire la vérité, mais en même temps, c'était sévère. Ça me fait penser à Romains 12, 22. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Mais vous savez, Jésus parlait comme ça, il dénonçait, mais ses brebis, il reconnaissait sa voix. Connaissez-vous Jean 18, ça dit « Tous ceux qui sont venus avant moi, Jésus a dit ça, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Hein? Un exemple, du temps du prophète Jérémie, qui était un prophète de Dieu, il était avant Jésus, mais l'Esprit de Christ était en lui. Il y avait un homme du nom d'Amathias. Hey, j'ai dit Jérémie, je voulais dire Amos. Pourquoi j'ai dit Jérémie? Là? C'est dans Amos, je pense que ça parle d'Amos. Là. Mais il y avait un gars qui s'appelait Amathias et qui, lui, voulait pas que Amos parle. Il dit à Amos, « Oh, ma vision, va-t'en, fuis du pays de Juda, dans le pays de Juda, mangez ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Autrement dit, il prêchait dans le royaume du Nord, à Bethel, c'était le centre névralgique du royaume du Nord. Et il dit, « Non, prêche pas ici, va-t'en là-bas. » Puis, autrement dit, « Amène pas du trouble ici, on veut pas t'entendre. » Mais savez-vous quoi? Il y avait des brebis qui entendaient la voix du Seigneur. Vous savez, il y a des gens dans le royaume du Nord qui sont justement allés à Jérusalem parce que le Nord s'apostasiait, puis sont allés pour suivre l'Éternel, l'adorer à Jérusalem. Et donc, c'était vrai de ceux qui sont venus avant Jésus, c'était vrai maintenant du temps de Jésus. Le peuple de Dieu écoute sa parole. Et on voit ça. Le Seigneur a des gens qui tremblent à sa parole et ils se rassemblent. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de salutaire. Donc oui, Jésus dénonce, mais il dénonce ceux qui le rejettent, ceux qui ne veulent rien savoir. Donc on n'a pas à nous se faire peur. Nous, quand on entend ça, on doit se trouver notre réconfort dans le fait qu'on s'accroche aux paroles de Dieu, on garde sa parole. Mais vous savez, c'est toujours le même pattern. Les personnes les plus religieuses, c'est souvent celles qui s'opposent avec le plus de véhémence, de violence, à ce que les autres entendent la vraie parole de Dieu. Il y a sûrement déjà témoigné à des gens où est-ce que vous avez rencontré le plus résistant, c'était des gens très religieux. Peut-être justement des fois dans une secte, mais ça peut être dans la grande religion qu'on a ici au Québec. Souvent, ces gens-là, zélés, ils ne veulent pas entendre. Ou ils veulent juste entendre à travers le filtre de leur religion. Et ça, c'est pour ça que Jésus parle comme ça avec autorité, c'est pour défaire ça, défaire toute ambiguïté. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la seule façon de se protéger, de protéger nos familles, notre Église, c'est de s'exposer nous-mêmes et d'exposer tous les domaines de notre vie à la parole de Dieu, purement, simplement et fidèlement, pour qu'on y trouve la liberté spirituelle que seulement Dieu donne, puis qu'on puisse même en déborder, qu'on puisse à être ceux qui ont une influence positive autour de nous autres. Et donc, ça c'est juste une couple de points que je voulais amener en introduction par rapport à la pensée générale. Je vais juste amener un autre point, un dernier point. Mon introduction est plus longue parce que le message est en deux parties, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les voir, là, les malheurs. Là. Mais je veux juste souligner un autre point important. J'ai fait un parallèle entre... Je fais des parallèles intéressants aujourd'hui entre Jean 14, 6, puis ce qu'on a vu ici dans les versets 8 et 9. Mais savez-vous aussi que, puis vous le vérifierez par vous-même, là écoutez-moi, puis je veux dire, si vous le faites en même temps, vous allez avoir de la misère à m'écouter, là, mais vous vérifierez par après, il y a un parallèle clair entre les dénonciations de Jésus ici, là c'est malheur, 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 ces prononciations de malédiction, il y a un lien direct avec les béatitudes. Ah. Il y en a 8 pour les deux d'ailleurs. Intéressant. Il y en a 8 pour les deux. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui les a inspirés. Puis il y a une continuité dans la pensée de Matthieu, puis je vous explique en quoi. Le Saint-Esprit veut souligner que Jésus a commencé son ministère en donnant les lois de son royaume, les valeurs, comment ça marche dans son royaume, les principes du royaume dont il est le roi. Hein? Le roi est présenté comme ça par Matthieu avec ce fameux sermon sur la montagne. Et là ici, il clôt son ministère. Puis, au verset 1, ça dit que Jésus parlait à la foule et à ses disciples. Donc, c'est encore public, mais là, plus on avance après ça, ça devient de plus en plus en privé. Et donc, Jésus clôt ça, c'est vraiment, parce que là, vous savez, il y a des groupes, on a vu ça dans le chapitre 22, des groupes qui venaient essayer de le prendre, là, boum, il donne le verdict, puis après ça, il passe vraiment à une autre étape dans son ministère. Donc, il a ouvert son ministère public avec les béatitudes, puis là, il le ferme avec la sentence de ceux qui ont rejeté ses paroles, ses lois, ses valeurs de son royaume, et qui donc l'ont rejeté, lui, le roi. C'est comme si Jésus disait aux leaders religieux et ceux qui les suivaient, vous avez rejeté, mais heureux, il ne vous reste que du malheur. C'est quand même quelque chose, de penser à ça, non? Et c'est ce que Matthieu veut souligner. Ça commence avec heureux, béni, en anglais, ça dit, puis ça finit avec malheur. Et c'est vrai, si on n'accepte pas la parole, si on n'y ajoute pas foi, on est les plus malheureux des hommes, et même, on peut l'être éternellement, si on reste, persiste dans cet état. Et Jésus même scelle ses paroles ici avec la conclusion. On va aller tout de suite à la conclusion qu'on ne va pas considérer aujourd'hui, mais je veux juste la lire parce que ça va dans le sens de ce que je viens de vous expliquer là. Dans verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus a scellé ici cette idée-là de dire, vous avez les bénédictions, vous m'avez vu en action, là il vient de prononcer des malheurs, puis là il dit, Jérusalem, Jérusalem, c'est comme si, je l'ai en anglais, là, seal their faith, comment on dit ça? Donc, le sort était jeté. C'est comme maintenant, vous avez pris votre choix, vous êtes fait. Fait que c'est très solennel ce qu'on lit là, là. C'est le roi qui parlait, il dit, wow, vous avez rejeté le roi. Fait que c'est, faut qu'on voit comment ce qu'on lit là, c'est très sérieux. Donc, on va commencer à considérer les trois premiers de 8 contrastes entre les béatitudes de Matthieu 5 et les malédictions ici de Matthieu 23. D'abord, le premier contraste, c'est avec les versets 13 et 14, un contraste d'éternité. Ça dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Malheur, puis on va lire verset 14 après, je veux juste dire quelque chose par rapport ici au verset 13. Juste pour comparer, c'est quoi la première béatitude? « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, on a le verset 13, puis on met ça en contraste avec la première béatitude. La différence ici, pauvre en esprit, c'est une idée d'humilité. Quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre, pauvre en esprit, il ne fait pas un cas de lui-même. Il sait qu'il n'est rien en dehors de la grâce de Dieu. C'est ça l'idée de pauvre en esprit. Versus les orgueilleux. Ici, les gens qui étaient tellement orgueilleux que non seulement ils étaient eux-mêmes perdus, mais ils fermaient la porte et empêchaient les autres d'avoir accès. Donc, j'ai appelé ça ici un contraste d'éternité. Parce que la porte pour entrer au ciel, elle est très basse. Il faut s'humilier pour rentrer. Puis les orgueilleux qui sont élevés comme ça, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est une différence entre ouvrir la porte des cieux versus la fermer. C'est vraiment ici une question d'accès au salut. Et rappelez-vous que le moyen du salut, c'est par la foi qui naît ou qui pousse dans le sol de l'humilité. Si on se pense bon, puis donc meilleur que Dieu, puis qu'on est capable par nous-mêmes, comment on va se confier en Dieu? Comment on va placer notre foi dans ce que Christ a fait? Non, on le met en nous-mêmes parce qu'on pense qu'on est donc capable et bon. Puis dans ce sens-là, le verset 14 amène une continuité à cette attitude-là. Ça dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ça l'illustre, ça l'amène un peu un élément d'exemple de ce qui est dénoncé ici. C'est-à-dire que pour l'orgueil qu'il y avait, ça donne le comment ou les ramifications de cet orgueil. D'abord, quand ça parle de dévorer les veuves, ici Jésus dénonce une pratique d'hommes sans scrupules là, de ces pharisiens-là qui étaient méchants. Et qui avait la responsabilité, comme ça l'était d'ailleurs dans l'église primitive avec les veuves, là, ben ça, c'était, parce que ça venait des pratiques juives, où est-ce que les responsables spirituels devaient s'occuper des veuves, OK, pour qu'ils soient... Parce que, tu sais, on parle à ça du bien-être social et tout ça, ben à l'époque, il n'y avait rien de ça. Fait que les deux positions les plus vulnérables, c'était veuves et orphelins. C'est pour ça que la Bible, tant ça parle de Dieu qui se soucie de la veuve et de l'orphelin, c'était les deux façons les plus... vulnérable dans lesquels tu peux te retrouver. Mais ici, ça dit qu'ils dévorent les veuves. Quelle expression, hein? Pourquoi? Parce qu'eux autres qui était confiée la responsabilité de la gestion de leurs biens, ils profitaient de l'occasion pour les convaincre, ces femmes-là vulnérables, que c'était noble, c'est un noble service à Dieu de donner leurs biens au temple ou à eux-mêmes, hein, des serviteurs du temple. Donc, ils étaient vraiment, ils profitaient. Il les extorquait. Donc, il est évident ici que ce que Jésus dénonce, c'est des profiteurs qui tiraient bénéfice de cette position qu'ils avaient, de cette habitude qu'ils avaient à l'époque, puis dépouillaient ainsi les femmes avec leurs enfants de l'héritage qu'avait de leur mari. Parce que c'est ça, le mari était défunt. Et donc, ce genre d'attitude, de traitement d'autrui qui exploite, qui profite, a des conséquences éternelles. Puis je veux mettre un parallèle. Si on est genre de parent, de conjoint, conjointe, qui est jamais content, qui exige toujours plus, on est dans le même genre de famille, d'attitude ici. Et ce genre de dureté de cœur dans les relations interpersonnelles affecte beaucoup la vision et la compréhension de Dieu que vont avoir ceux qui sont maltraités par notre attitude qu'on a. Si on a cette attitude intransigeante, tout ça, comment vous pensez que les gens vont voir Dieu? Les enfants, puis tout ça, ils vont le voir comme étant bang, intransigeant de même. Et donc, ça a des conséquences éternelles. Mes amis, je crois que trop d'enfants issus de familles chrétiennes ont cette cicatrice dans leur cœur avec ce genre d'attitude. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les longues prières. Faisait des longs prières, un spectacle, un étalage de vaine piété. Une justice propre qui était motivée pas par un amour pour Dieu, mais par la crainte des hommes, de bien paraître devant les hommes, par la chair. Et cette attitude aussi avait des conséquences éternelles parce qu'elle n'est pas basée sur une foi saine, sur la crainte de l'Éternel, mais sur la tromperie, le piège de la crainte des hommes. Et tout ça, ça nous rappelle que l'orgueil... c'est quelque chose de vraiment grave et dont les conséquences sont graves parce que c'est un refus de s'humilier, d'accepter d'être humilié par Dieu, qui a des conséquences personnelles, maritales et familiales, ecclésiastiques dans tous les domaines de notre vie. Et la Bible ici nous dit que ça l'encourage un jurement, ça dit « vous serez jugés plus sévèrement ». Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Puis là-dessus, juste deux petites références parallèles. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous serez jugés plus sévèrement. Et je l'ai déjà lu, mais je veux vous relire encore. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc, ce premier contraste nous rappelle comment... avoir une relation avec les autres qui est basée sur la dureté, la loi de faire ou de ne pas faire, ça vient d'un cœur dur et ça ne peut pas porter du bon fruit. Et nos histoires respectives à chacun ici peuvent relater, nous rappeler les conséquences graves et éternelles de cette vérité-là après-midi. Mais Christ est différent. Lui, quand il vient dans notre vie, il est plein de grâce et de vérité. Qu'on puisse incarner cela en tant que ses enfants. Donc, c'est un premier contraste, un contraste d'éternité. Le deuxième, au verset 15, avec la deuxième béatitude, c'est un contraste de repentance. Malheur à vous, verset 15, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Si on met ça en contraste avec la deuxième béatitude, qui nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et si aussi on fait un parallèle avec ce que Jésus nous relate dans Luc 18, le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux. Là, vous connaissez l'histoire, le monsieur qui se vantait, qui priait, qui se pensait donc bon, mais le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lequel était affligé, vous pensez? Le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il était repentant. La différence, c'est qu'il y en a un qui est endurci par rapport au péché, l'autre est affligé par rapport à son péché. C'est pas parce qu'il y en a un qui est pécheur puis l'autre, il l'est pas. Les deux le sont. Mais il y en a un qui est saisi par la gravité de son péché puis l'autre en est aveuglé ou l'excuse. Ou les deux. Le résultat, c'est un contraste de repentance. Il y en a un qui se repent, l'autre qui se repent pas. Parce qu'il n'y a pas de la conviction. Et remarquez que le non-repentant, ici, dans Matthieu 23, 15, il fait du prosélytisme. Il s'en va, puis vraiment, c'est de là qu'on a ce mot-là, là, ici, il s'en va, il court la main là, pour faire un prosélyte, quelqu'un qui embrasse la foi d'Israël. Et le mot prosélytisme, maintenant, en général, ça veut dire qu'il embrasse la foi qu'on veut lui faire embrasser. Là. Tu sais, je fais du prosélytisme en prison, il dit « Tu peux pas faire du prosélytisme. » Mais tu sais, je suis là comme un moulin protestant, je prêche l'évangile. J'en fais, là, je veux dire. Les gars me demandent, hein, moi, c'est Jésus que je prêche, là, puis c'est la réponse. Puis... Mais j'ai le droit, c'est pour ça que je t'ai engagé, là. Mais en tout cas. On rentre pas là-dedans, là, mais. Mais en toute bonne conscience, je veux dire, c'est vrai. Mais on a comme pas le droit pareil. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Mais c'est parce qu'ils ont pas l'évangile. T'sais. Quand t'as la réponse, puis tu veux dire, tu peux pas en donner d'autres, ben, ah ben oui, essaye là, ça devrait peut-être marcher. Mais non, je ne peux pas dire ça, là, c'est faux. En tout cas. Mais là, pour revenir ici à notre contraste de repentance, ça souligne une vérité importante par rapport à l'apostasie, parce que cette personne-là ici, ben, ces personnes, les pharisiens, qui voulaient faire un prosélyte, étaient apostats, s'étaient détournés de Dieu, du Dieu vivant, même s'il y avait la parole du Dieu vivant. Et donc, ils connaissaient des choses par rapport à Dieu, mais non seulement ils s'en détournaient eux-mêmes volontairement pour suivre leur propre voie, mais ils ne se contentaient pas de ça, de eux-mêmes s'égarer. Ils égaraient aussi les autres, puis ils insistaient pour les rentrer dans leur voie de perdition. C'est quand même quelque chose, là. Et face à une pareille attitude, aussi problématique, Jésus dénonce. Et pour nous, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Puis même un matin, j'avais encore une certaine fraîcheur de cette vérité-là. De plus en plus de chrétiens, des brebis du Seigneur, se retrouvent dans les églises, puis là, ils disent, on n'a plus de place où est-ce qu'on peut adorer en esprit et en vérité. On est rendu, on a de plus en plus le phénomène d'église d'État qui est en train de s'installer. Ça, c'est de toute éternité, pas de toute éternité, de toute l'histoire de l'humanité. Il y a tout le temps eu des églises fidèles, puis... Mais tu sais, on sait que des églises gouvernementales... Tu sais, aller en Russie ou en Chine ou... Probablement, peut-être même en Corée du Nord, ils vont dire, ah, nous, on est pour la liberté, puis regardons, on a des églises. Ça justifie. Tu sais, mais c'est pas des vraies églises, là, c'est des églises d'État. Ils font tout ce qui est. En fond, ils prêchent pas l'évangile, ils vivent pas l'évangile, puis tu sais, la lumière est plus que sous le boisseau, c'est le chandelier est enlevé complètement. Et on est face à ça de plus en plus. Et je dois dire que ça, c'est un contraste de repentance. Parce que face à la réalité de l'Évangile, puis de Christ qui est le Seigneur de l'Église, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi suprême, nous devons, c'est non négociable, nous devons nous soumettre. C'est même pas une question qu'on fait une réunion d'administration là-dessus. Là. C'est non négociable, là. Shadrach, Meshach, Abednego. On va parler de ça dans un message subséquent, là. Mais c'est tout ce concept-là de collectivisme. C'est intéressant parce que tout le monde ici, en tout cas ceux qui sont nés au Québec, ben, puis au Canada, on est tellement influencé, puis on ne se rend pas compte, mais le concept de collectivisme, se laisser nos droits pour le bien commun, là, puis tout ça, on va réfléchir là-dessus, vous allez voir. Je ne pense pas que Moïse, Shadrach, Meshach, Abednego, les apôtres étaient bien pour le collectivisme. On va en parler plus tard, mais il y a des choses intéressantes là-dessus. Mais je crois que là-dessus, on doit, comme dans... Tite, on doit fermer la bouche à ceux qui veulent comme ça nuire à l'œuvre de Dieu. J'ai noté le verset, mais... Ok, c'est ça. Ça dit, il y a en effet parmi vous des circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discourables, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Bon, puis là, ça parle de l'un de leurs prophètes, puis tout ça. Mais l'idée, si on insiste pour amener un message qui n'est pas l'évangile de Christ, puis qu'on dit, il faut que ça soit de même, puis tout ça. Moi, j'ai beaucoup de problèmes là-dessus, de conscience, tout ça. Je veux dire, on croit à la liberté de conscience, puis on croit que on doit, en tant que, on croit à la prêtrise des croix en tant que croyant, on adore Dieu volontairement. Et c'est tellement important, c'est pas secondaire. Et donc, comment est-ce qu'on traite les... Est-ce qu'on fait du prosélytisme non biblique? Puis là, je vais être clair, je vais dire, est-ce qu'on fait du prosélytisme covidiste? Non, mais c'est... Faut qu'on réfléchisse là-dessus. Je veux pas faire. C'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. En Chine, on a des frères et ça en ce moment qui sont expulsés du pays parce qu'ils veulent être fidèles à l'Évangile. C'est une église clandestine. Ils ont été sous le radar tout ce temps-là. Puis maintenant, ils sont expulsés. Je veux dire que c'est exactement le même sort qui nous attend. Mais est-ce qu'on est décidé? Est-ce qu'on va essayer de vouloir être selon les normes du gouvernement ou est-ce qu'on veut rester fidèle à la parole? Parce que je le rappelle, notre allégeance, elle est à Christ et à Christ seul et c'est non négociable.
Amen.
Donc, attention à comment on fait des prosélytes. Je suis inquiet du fait que beaucoup d'églises font du prosélytisme comme ici. C'est-à-dire, le prosélytisme qu'on fait, c'est pour l'Évangile. C'est, OK, il faut, on veut amener les perdus à la croix, on prêche l'Évangile aux perdus, mais aussi on prêche l'Évangile aux saints. On doit voir qu'on est, OK, ici, des enfants de Dieu, là, on a besoin de se faire prêcher l'Évangile, qu'on est mort avec Christ, vivant pour Dieu, puis qu'il est notre chef, il est notre vie. On a besoin de se faire dire ça, puis de se le faire répéter. On est prosélyte pour ça. Le reste, mes amis, c'est secondaire, tertiaire, quatre. Parce que c'est pas l'essentiel. Faut qu'on choisisse nos combats. C'était mon point le plus sensible. Là, je vais passer à d'autres choses. Un dernier contraste. Les versets 16 à 22. Les versets, c'est plus long, mais le point est plus court. Donc, Jésus continue en disant, « Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. » Bon, puis on ne va pas tout relire. Je vais juste vous expliquer le principe ici, en contraste avec la troisième béatitude, « Heureux les débonnaires. » car ils hériteront de la terre. Ici, il y a un contraste de traitement. C'est-à-dire que là, ce que Jésus dépeint ici avec l'idée de l'or, du temple, là, c'est que il y a une différence ici entre la façon de traiter autrui, les autres. Avoir une relation basée sur la douceur. L'idée de débonnaire, c'est de traiter avec douceur. OK? Professant la vérité dans l'amour. Jésus qui était doux et humble de cœur. Rechercher le bien spirituel et éternel de l'autre. OK? Versus la dureté de cœur d'un conducteur aveugle qui ne se soucie que de l'or et non pas du temple, du Dieu du temple et tout ça. OK? Et ces conducteurs aveugles, par leur orgueil, traitaient les gens selon la mensonge et le tromperie. Dans le fond, ils avaient trouvé une façon. Avec les affaires de jurage, tu vois, ça vient de l'Ancien Testament, de jurer par-ci puis par-ça, de s'en mettre encore là, plein les poches. L'idée, c'était vraiment l'amour de l'argent, l'amour d'eux-mêmes et non pas d'autrui. Et Jésus dénonce ici une pratique, un traitement pernicieux et abusif que les pharisiens encore utilisaient pour faire de l'extorsion. C'est un autre, il y en avait plus qu'une façon de faire de l'extorsion. Mais ici, c'était sous le couvert de la moralité, d'être religieux, parce que la supercherie consistait à dire que si la personne jurait par le temple, l'autel ou le ciel, okay, verset 16, 18, 22, il n'était pas lié. Okay? Il n'était pas obligé, il n'était pas contraint d'honorer ce vœu. Mais s'il jurait par l'or qui était dans le temple ou dans l'autel, là, il était engagé, il était lié. Et s'il n'en aurait pas ça, il était sanctionné. Okay? C'était ça ici la pratique. OK? Autrement dit, tu fais juste dire ça de même, c'est correct, mais si tu parles de l'or, là, Là, vraiment, c'est sérieux, là. Jésus défait cet argument en rappelant que jurer par ces choses, ça équivaut à jurer par Dieu lui-même. Parce que, dans le fond, les pharisiens ne faisaient pas de quoi de Dieu, mais de l'argent. Et Jésus, dans le fond, dénonce ici, vous êtes après l'argent du monde, vous n'êtes pas après le Dieu qui est pour ces gens-là, qui veut ce Dieu-là, qui c'est de Dieu que les gens ont besoin. Donc, Jésus dénonce une pratique, encore là, abusive. Et un contrat. Donc, vous voyez, il traitait les gens durement. Il les traitait pas en pensant à leur bien spirituel, il pensait au leur. Il voulait eux autres s'enrichir en ayant toutes sortes de manigances puis de magouilles pour essayer de les amener à leur point. Puis le contraste ici de traitement, c'est que il y avait les béatitudes qui parlent de bonté, de douceur, d'être de bonheur versus la dureté qui se sert de Dieu pour se servir d'autrui. C'est ça le problème ici. Et c'est profane. Ces gens-là, ils prenaient le nom de Dieu en vain. Ils se servaient de Dieu pour leur propre but. Alors que qu'est-ce que Christ est venu? Il est venu pour souffrir pour le bien puis le péché des autres. Et ça nous dit dans 1 Pierre qu'il a fait ça puis qu'il nous a donné un exemple pour qu'on suive ses traces. Puis ça dit dans Galates qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres. C'est comme ça qu'on va accomplir la loi de Christ. Eux faisaient tout l'inverse. Ils ne voulaient pas souffrir. Ils ne voulaient pas de problème. Ils voulaient profiter au maximum des autres. Donc, c'est un contraste de traitement. C'est une différence, un débonnaire. Puis ces gens-là ont leur récompense. Ça dit qu'ils vont hériter de la terre. Je vais arrêter là pour l'instant. Mais je veux juste amener quelque chose en conclusion. Je veux revenir sur le fait que Matthieu nous donne ses vérités dans le contexte du fait qu'il est le roi, qui a toute autorité, d'où l'idée du fait qu'il dénonce avec autorité, il dénonce en tant que roi, qui lui dicte les règles, qui donne la loi. Et je veux terminer sur cette note. Êtes-vous dans la bénédiction des béatitudes en étant joyeusement sous l'autorité du roi? Savez-vous qu'un enfant de Dieu a la joie de Dieu? Ses commandements ne sont pas pénibles. OK? Ou êtes-vous dans la malédiction de refuser son joug doux et léger? Et ainsi, vous êtes misérable parce que le malheur de votre obstination, de votre incrédulité, de votre orgueil vous colle à la peau. Et plusieurs en sont infectés. Ça peut être une question de salut. Ça peut être aussi une question de pleine obéissance, joyeuse et simple, à votre roi, à votre Seigneur. Dans les deux cas, la solution est la même. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le même qui a dénoncé fortement a appelé aussi. Parce que ici, on lit les malheurs, malheurs, mais Jésus, dans Matthieu 11, on l'a déjà vu, ça fait quand même assez longtemps, il a dit « Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Capernaum! » Et juste après, il dit « Venez à moi! » Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Si on a été rebelle, si on s'est entêté, on peut aller à Dieu si seulement on s'humilie devant lui. Et Jésus est la réponse, que ce soit pour le salut de la pénalité ou la puissance du péché. Jésus est la réponse. Et donc, ce que je veux qu'on fasse en terminant dans le temps de prière, qu'on invoque Dieu de vivre pleinement la bénédiction de sa délivrance. La bénédiction des béatitudes. Heureux, blessed, béni. Parce que c'est ce que le roi est venu apporter. Un royaume bienveillant. Lui, le bon roi. Le roi qui est toujours bienveillant, qui fait toujours le bien. Qu'on puisse se placer sous son règne bienveillant. Merci Seigneur pour ce temps. Est-ce que tu nous rappelles que tu es l'autorité suprême? Non seulement dans nos vies, mais dans tout l'univers, toutes les personnes, toute créature, tout est soumis à ton règne. Seigneur, on te remercie de ce que même s'il y en a qui résistent, qui se rebellent, Seigneur, en rien cela n'affecte le fait que tu es le roi suprême. Mais Seigneur, on prie que la même façon que tu as invité ces pharisiens endurcis, tu les as dénoncés pour les inviter à la repentance, Seigneur, que tu brises toute résistance dans nos vies. Qu'on voit qu'on ne fait qu'attirer notre propre malheur avec notre obstination. et notre orgueil, notre refus, notre incrédulité. Ah Seigneur, tu dis heureux. C'est comme ça que tu as ouvert, c'est comme ça que tu as commencé à t'adresser au public. Seigneur, tu t'adresses à nous comme ça après-midi. Qu'on puisse marcher dans cette joie de se placer sous ton règne bienveillant. En fait, c'est de la folie de faire autrement, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, brise notre orgueil. Ouvre-nous les yeux sur ton règne bienveillant. Qu'on le désire plus que toute autre chose. Qu'on te désire plus que toute autre chose. On te le demande au nom de Jésus. Amen.